Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous aurez certainement remarqué qu'il y a une grande similitude entre la première lecture du livre des Rois, plus fort, oui, ça va, et l'évangile de Saint-Luc que nous venons d'entendre. Les deux textes nous racontent la résurrection du Fils unique d'une veuve. La première, c'est la résurrection du fils de la veuve de Sarepta par le prophète Élie. Et dans l'évangile de Luc, c'est la résurrection du fils de la veuve de Naïn par Jésus. À l'époque de Jésus, la femme avait un statut précaire. Elle dépendait entièrement de l'homme, soit de son père ou son mari, ou alors son ou ses fils si elle était veuve. Être veuve était ainsi une position très inconfortable. Son fils était son dernier soutien, car par lui, elle conservait un certain statut dans la société juive. Nous percevons ainsi tout le drame de la perte de son fils unique. Drame d'abord affectif, mais aussi social. Si dans la première lecture, la veuve s'en prend à Élie et l'accuse de faire mourir son fils. Dans l'évangile de Luc, la veuve ne dit rien, mais Jésus est touché dans ses entrailles. Il voit cette femme effondrée par ce qui lui arrive et il est ému, pris de compassion pour elle. C'est un regard humano-divin qu'il pose sur cette femme, un regard d'amour. Il n'y a pas de reproche de la part de la femme, il n'y a pas de demande. Elle pleure. Jésus ne demande pas à cette femme si elle a la foi. Il va simplement lui dire, ému par ses larmes, « Ne pleure pas ». C'est sa nature humaine qui agit. Mais en tant que Dieu, il va faire un geste qui, pour le peuple juif, est à la limite de l'impureté. Il va toucher le cercueil. Il prend ainsi des distances vis-à-vis de la loi. C'est lui qui rend pur ce qui est impur. Il rend pur rien qu'en le touchant. Il s'adresse alors directement au mort et lui dit « Jeune homme, lève-toi ». Et le mort se redressa et se mit à parler, montrant ainsi à la foule qu'il était revenu à la vie. Le Christ va utiliser trois sens de l'homme pour mener à bien son miracle, la vue, le toucher et la parole. La vue. Le regard du Christ est rempli de la source d'amour qu'il est en tant que Dieu. C'est un regard qui rassure, un regard qui réanime, qui ressuscite, qui réveille. Le toucher. Sa main qu'il pose sur le cercueil est la main du Père qui vient arrêter la procession mortuaire dans laquelle l'humanité se fourvoie. Et enfin la parole « Ne pleure pas et lève-toi » sont des paroles de compassion et aussi une invitation à se réveiller, à sortir de cette espèce de torpeur dans laquelle nous vivotons et nous nous enfonçons. Naïn veut dire ce qui est gentil, agréable. C'est un milieu gentillet, mais qui reste dans un bonheur superficiel. Naïn, c'est l'humanité qui reste à la superficie des choses, qui a perdu le lien avec l'époux divin, qui est devenue veuve. Extérieurement, elle donne l'image que tout va bien, qu'elle vit encore de façon agréable, mais coupée de sa source, n'étant plus en contact avec ses profondeurs, avec le principe divin qui la fait vivre, elle est occupée à perdre son fils intérieur. Elle perd le lien, elle perd la conscience de son rôle essentiel de mettre au monde l'enfant divin qui est en nous. Cette tâche de maternité à laquelle nous sommes conviés, hommes et femmes, en rendant le fils à sa mère, Jésus vient nous rejoindre et nous inviter à prendre soin de cet enfant divin qui nous habite. Il vient redynamiser notre vie, lui redonner son sens originel. Il vient nous inviter à nous réveiller de notre sommeil spirituel. Si vous vous souvenez, il y a 3 épisodes dans la vie de Jésus où il ramène à la vie des personnes qui sont mortes. Il y a la fille de Jaïr, le fils de la veuve de Naïm d'aujourd'hui, et aussi la résurrection de son ami Lazare. Il y a une gradation dans ces 3 miracles. Dans le premier, la jeune fille vient juste de mourir. Dans le second, le jeune homme est déjà sur le chemin du tombeau. Et dans le troisième, le corps est déjà dans le tombeau depuis plusieurs jours. Et chaque fois, le Christ est là et intervient pour le ramener à la vie. La mort symbolise l'éloignement de Dieu. Il nous montre ainsi que quelle que soit la profondeur de notre éloignement, la profondeur de notre nuit spirituelle, le Christ est là pour nous ramener à la vie. Même morts spirituellement, nous gardons du prix à ses yeux. Il ne nous oublie pas. Il ne reste pas spectateur de la mort, mais devient acteur de la vie. Je suis le chemin, je suis la résurrection et la vie. Non seulement il le dit, mais il agit en ce sens. Ces actes vont évidemment questionner la foule qui l'entoure. Pour le peuple juif, Élie, le grand prophète, la grande figure du judaïsme, avait été enlevé au ciel sur un char de feu, et le peuple attendait son retour. Alors, imaginez-vous ce que devait être leur état d'esprit en voyant ce miracle tellement semblable à celui qu'il avait accompli. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu. La crainte, ce n'est pas la peur, mais l'émerveillement devant la grandeur, devant la puissance manifestée par Jésus. Et le peuple dira, « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Tous les jours, Dieu visite son peuple. Le voyons-nous ? Tous les jours, il se rend présent. En sommes-nous conscients ? Sommes-nous attentifs à cette présence ? Les disciples et la foule qui suit Jésus, c'est l'Église que le Christ, Fils unique de Dieu, conduit vers la vie et un bonheur sans fin. Mais l'Église aujourd'hui est en train de trembler sur ses fondements. La force de l'Esprit de Dieu qui animait les premières communautés a été perdue par une forme de légalisation de la vie en Christ. L'Église s'égare dans des logiques extérieures, des logiques de pouvoir, de compétition, et on oublie sa mission première, sa mission maternelle, qui est de mener l'homme à la déification en faisant grandir en lui le germe divin. Avec le Christ, rien n'est jamais perdu. Avec lui, tout peut revivre et devenir joie. À nous de se mettre à son écoute, sous son regard, et se laisser toucher. À lui soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.